Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
À 6h03 au 96.9, c'est quoi? Les cloisons doivent tomber dans le secteur de la construction. Je vous parle de ça. Avant, je vous relance la question. C'est quoi les absurdités que tu as vues dans ta job? Les choses, tu dis, mon Dieu, je peux pas croire qu'on fait encore ça. C'est donc bien cabochon, c'est pas optimal. Je veux pas juger là, du milieu de la construction, j'y œuvre pas. Mais les conclusions d'une étude qui arrive, à laquelle cette étude-là arrive, sont dans ce sens-là. Le métier de... Les cloisons doivent tomber dans le secteur de la construction pour avoir des gains d'efficacité sans toutefois menacer la qualité de ce qui sera construit. Et à titre d'exemple, c'est le ministre du Travail, Jean Boulet. Lui, il dit, savez-vous combien de travailleurs sont nécessaires pour changer une porte dans une école du Québec? Il en faudrait jusqu'à 7 si on suivait à la lettre, mettons, toutes les indications. Mettons que cette porte-là, t'es obligé de changer le cadre de la porte. Ouais. C'est-à-dire que t'as un charpentier qui serait en arrière qui ferait la structure en 2x4, mettons, autour de la porte. Ouais. Mais pour ajouter le cadre par-dessus, ça serait quelqu'un qui est en système d'intérieur qui viendrait ajouter le cadre. Après ça, tu auras un peintre, mais un plâtrier. Puis ouais. Écoute, ça,
la liste... Imagine si, mettons, la porte dans un mur de briques.
Ben là, tu exactement, plus, exactement. Ça. Et donc, on n'arrête pas de compliquer. Ça pourrait aller jusqu'à 7. Et à titre d'exemple, combien de corps de métier au Québec sont cloisonnés par rapport à l'Ontario? Au Québec, là, c'est l'endroit où il y en a le plus. On a 25 métiers qui sont à certification obligatoire. Et ça implique aussi des heures de travail que tu dois accumuler. Exemple, pour devenir peintre, c'est 900 heures que tu dois faire avant d'avoir une carte de compétences. Là, je veux pas jouer ces termes. Ouais. C'est une carte de la carte d'entrée là, pour être admis comme peintre. Alors que il y a certains tireurs de joints, exemple, qui pourraient et dans d'autres métiers aussi, qui pourraient traverser d'un corps de métier à l'autre sans trop d'enjeux sur la qualité des constructions, qui seraient capables de faire la job et qui accéléreraient et qui augmenteraient probablement par le fait même les mises en chantier. Il y a 25 corps de métier au Québec qui sont comme ça. En Ontario, en comparaison, il y en a 7. Okay. Il y en a 7, donc tu es obligé d'être certifié pour exercer ce métier-là. Mm. Et c'est vraiment la province, en comparaison, c'est l'Ontario, en Colombie-Britannique aussi. Généralement, on compare la Colombie-Britannique avec nous autres. Donc, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est une solution? Probablement. Il manque 7700 travailleurs dans la construction, toutes catégories confondues. On pense qu'on pourrait pallier à certains manques, ou en tout cas, régler une certaine partie de ces problèmes-là. Ouais. Et je sais qu'il y a des heures, à un moment donné, qui sont limités dans une année. Il y a des gens qui font même pas toutes leurs heures dans la construction. Le fait d'aller dans un ou deux métiers, peut-être que ça les permettrait. On va parler à Sam au téléphone. Parce que je vous rappelle la question, c'est quoi les absurdités que tu as vues dans ta job? Sam, salut!
Yes, salut!
Salut! Tu travailles dans quoi, Sam, toi?
Moi, je suis charpentier menuisier.
OK.
Ça fait déjà quelques années. Puis nous, sur nos jobs, dans le fond, on donne la pose de G-Prox en sous-traitance. On la fait sous-traiter parce que les gars sont plus rentables que nous autres. C'est des machines, puis... On est capable de faire autre chose pendant ce temps-là.
Okay.
Puis, pas plus tard que ma dernière job, la CCQ est arrivée, puis elle s'est mise à menacer un gars de sous-traitance. C'est un gars de PSI, donc de la pose de système intérieur. Eux autres font ça sur le commercial puis sur du stock de métal.
OK.
Puis, il a menacé le gars d'une amende comme quoi qu'il n'avait pas ses cartes de charpentier menuisier. Puis, s'il n'allait pas les chercher, il mettait à l'amende dans les lettres 24 heures parce que s'il voyait pisser sur du bois, selon la CCQ, selon les cartes de compétences, il n'y avait pas les compétences pour pisser sur du bois, mais sur du métal, c'était OK.
C'est fou, hein? Puis ça, toi, ça pourrait être facilité, selon toi, Sam, ça changerait rien à la qualité de ce qui est construit, puis le chantier avancerait, c'est tout, là.
Bien, entre autres, c'est pas tous les métiers, j'ai l'impression.
Je comprends.
Un gars de PSI peut le faire sur du bois. Bien, ils veulent jumeler aussi, par exemple, les truelles, tous les métiers de truelles, que ce soit cimentier, applicateur ou bien tireur de joint. Là, à ce niveau-là, tu parles à un, tu parles à l'autre, les deux veulent pas faire l'autre job, tu sais.
Ouais. Mais en même temps, il y a certainement des gains à aller chercher, des gains d'efficacité, je veux dire, là, en décloisonnant. Si en Ontario, par contre, en Colombie-Britannique, il y en a 7 cloisonnements auxquels je comprendrais un électricien là, qui peut pas faire n'importe quoi. C'est pas tout le monde peut faire ce métier-là. Entre 25 et 7, il y a sûrement une zone où on est capable de s'améliorer. Mais Sam, merci de l'éclairage que tu apportes ce matin. Bonne journée, mon chum.
Merci.
Merci à toi. C'est quoi l'absurdité que tu as vue dans ta job? On va s'en jaser dans 30 secondes.
Je donnerai aussi le point de vue de Jason de Montréal, parce que lui, il dit qu'il y a toujours deux côtés à une médaille dans la construction. Lui, il comprend notre question, mais il a des réflexions.
Ouais, mais y a-t-il le permis pour la virer, la médaille?
Exactement. Peut-être qu'il n'y a pas le permis pour faire ça. On va démêler
ça
avec Jason dans un instant. Bougez pas.
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
À 6h08, on veut une réforme dans le secteur de la construction. C'est le ministre Jean Boulet qui souhaite ça. Et c'est en marche, ce projet de loi-là, qui est un pas dans la bonne direction, mais c'est juste un pas de souris, selon certains intervenants. Alors, des grands chantiers d'habitation, ce dont le Québec a besoin, c'est un des facteurs qui pourrait accélérer les mises en chantier et la livraison de ces logements dont on a cruellement besoin. Tu parlais de Jason avant la pause, ma chère Valérie. Lui, il est pas d'accord avec ce qui est avancé comme projet de loi.
Arrête de dire, lui, il dit qu'il faudrait qu'on y réfléchisse. Il dit, il y a toujours deux côtés à une médaille dans la construction. C'est vrai que ça prend plusieurs métiers pour cet exemple-là. Donc, dans ce que le ministre parlait dans le journal, c'est-à-dire que changer un cadre de porte, c'était 7 quart de métier qu'il fallait qu'il y aille. Il dit, par contre, ce que le ministre veut faire, c'est aussi permettre à du monde non qualifié de terminer des projets qui ont été entamés pour permettre l'avancement des projets. Fait que ça fait en sorte que, selon Jason de Montréal, la qualité de l'ouvrage sera moindre au final. Et il donne un exemple très concret que j'avais jamais imaginé. Il dit, par exemple, un menuisier qui a pas terminé d'installer les cadrages, les moulures dans une maison avant l'arrivée des peintres, mais il dit, les peintres auraient le droit de terminer l'installation des moulures dans la maison.
Okay.
Et en sorte que le peintre est pas nécessairement qualifié pour installer les moulures, sauf que lui, il pourrait faire avancer la job avant de sa peinture. Ouais. Fait qu'il pourrait mettre du latex, il pourrait mettre la peinture. Ouais. Fait que dans certaines situations, ce serait pas nécessairement positif d'avoir ce que le ministre voulait.
En même temps, je veux pas faire l'avocat du diable, mais je connais plein de monde qui pose des moulures puis sont pas des professionnels là-dedans, puis c'est fait dans les règles de l'art. Ouais, je l'ai vécu pour avoir rénové ma maison le printemps dernier. Là, il y a exactement ça qui est arrivé. Un peintre, un moment donné, qui est arrivé, puis il y avait un tour de porte à finir. Il l'a fait, puis ni vu ni connu, là, sérieusement. Ben je veux pas citer Jason, mais je pense pas que quelqu'un qui connaît pas ça se mettrait à faire ça. Je pense pas que c'est l'enjeu. Là. Il y en a certains qui sont capables de le faire, puis ceux-là, ben ils devraient pouvoir le faire sans crainte de se faire taper ses doigts nécessairement.
Sur la messagerie, il y a Mathieu qui dit, juste pour vous donner un exemple, moi, en tant que plâtrier, selon la loi R20, je n'ai pas le droit de tenir une drill dans mes mains. Je suis passible d'une amende si un inspecteur passe. Puis il ajoute, il dit, ou un poseur de système intérieur ne peut pas poser de gyps sur du bois. Il peut seulement sur des studs en métal. T'sais, il y a comme, à un moment donné, puis je comprends, faut faire attention parce que ça protège aussi certaines personnes et c'est correct de le faire. Ça protège certains corps de métier.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est juste qu'on perd un petit peu en termes d'efficacité et d'efficience, là,
mais
quand même.
Il doit avoir un équilibre à un moment
donné.
Ouais,
c'est ça. Mais
un équilibre, c'est sûr.
Faut pas devenir fou non
plus. Ben non.
Mais en même temps, il faut que ça avance, les chantiers. C'est vrai, là. La vérité, c'est que moins on a de logements, plus la crise du logement que l'on vit actuellement va continuer puis s'éterniser, puis on n'en aura pas des endroits pour habiter.
Puis tout le monde est d'accord qu'on veut pas, sacrifier la qualité de ce qui sera fait, jamais, mais il y a des moments où, comme je te dis, quand t'attends après quelqu'un qui va venir finir de poser une moulure pour continuer à peinturer, ben des fois, ils sont capables de le faire, là, sérieusement, sans trop de problèmes. Il y a Nancy qui veut savoir c'est quoi décloisonner, ben c'est exactement ça, donner la permission à certains corps de métier d'aller faire des travaux légers qui leur permettraient, eux, d'accélérer, d'avancer dans leur travail à eux autres.
Puis tu vois un petit contre-argument d'Annie qui dit un peintre chinois a appliqué le plâtre puis ça a l'air du cul.
Ouais, ben ils sont pas tous bons, là, mais je t'annonce qu'il y a des peintres qui sont devenus, c'est des peintres, ça a l'air du cul aussi, là, tu sais. C'est pas toujours 100%, ça vient avec le risque du métier. À 6h12, merci tout le monde de vos nombreuses réactions. On verra la suite de ça. Ça, c'est un gouvernement. Mais le gouvernement veut des solutions. Il essaie de voir comment on pourrait simplifier les choses. Il y a de la résistance. C'est sûr, c'est du changement. Puis il y en a tout le temps quand il y a du changement, de la résistance. C'est un peu la nature de la vie. Dans un instant, c'est pas la nature de la vie, c'est la zone à Marco.
Ouais, c'est plus et comme.
Étienne ponctuellement a un don que j'admire. C'est un don ou de l'insouciance, je sais pas clair encore pour moi, mais il va littéralement blaster la télé québécoise dans un instant. Ouais. Ça va être la troisième ou quatrième fois qu'il fait ça depuis le début de l'année. Et ce qui est drôle avec Étienne, c'est qu'il travaille en télé beaucoup. Hein. C'est tout de ses amis ou à peu près qui va ramasser dans les prochaines secondes pour nous autres, nous faire rire.
Ah oui, exact.
Tu vois bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde qualifié qui travaille en télé. Là. Ils sont blastés puis ils rappellent Étienne.
Ça fait longtemps c'est bon. Que c'est décloisonné.
C'est bien décloisonné.
T'es comique, de retour dans un instant.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques, sur demande.
Faut que je vous partage une nouvelle. En fait, une nouvelle qui est dans le journal de ce matin, c'est Hydro-Québec qui aura besoin probablement de ton auto électrique. Je sais que ça se fait. Il y a certains modèles de véhicules qui ont ce qu'on appelle en fait un inverter. Ça, en fait, c'est à ta maison là, que tu es capable donc de prendre de l'énergie de ton auto électrique et en pluguant, en laissant ton auto pluguée pour la charger, elle se décharge dans ta maison. C'est inversé donc. Et ce que ça fait, ce que ça veut dire, c'est que la plupart des automobiles, la grosseur de batterie qu'elles ont, ça pourrait fournir ta maison presque au complet pendant 2 jours. Donc, tu pourrais, pendant une panne électrique, au lieu d'avoir une génératrice, littéralement prendre de l'énergie dans ton auto si ta batterie est pleine dans le cours.
C'est capoté, ça.
C'est capoté, ça existe déjà, je le dis, là. Il y a un paquet de véhicules électriques, ça s'en vient de plus en plus standard dans ces véhicules-là.
Ouais.
Éventuellement, donc, on pourrait avoir, mettons, je sais pas, des millions de véhicules électriques au Québec. Et éventuellement, à terme, tout le monde aurait une auto électrique, idéalement, dans les volontés du gouvernement. C'est vers ça qu'on s'en va, eh bien, ça deviendrait une énergie passive. C'est l'équivalent de la production de la baie James qu'on pourrait retrouver dans les stationnements, littéralement, des maisons du Québec qui pourraient, donc, en cas de panne, en cas de pépin majeur, inverser ça tout simplement. On pourrait même décider qu'on déleste, qu'on arrive et on dit, hey, pour vrai, il y a un pic, il y a une pointe de froid cet hiver, mettons, le 12 janvier. Bien, ce soir-là, on vous invite à inverser sur vos autos le temps d'une soirée, d'une nuit pour avoir un apport d'électricité comme ça. Et imaginez, on combine ça, mettons, je sais que le New Hampshire, eux autres, là, ils offraient à leurs clients l'espèce d'hydro New Hampshire. Ils disaient, si vous voulez, on peut vous louer un Powerwall. C'est un deal qu'ils avaient fait avec Tesla, mais n'importe quel accumulateur, une batterie domestique, donc, qui te permet aussi d'accumuler de l'énergie. Ce qui fait que lors d'une panne électrique, on aurait et l'auto, et la batterie pour la maison, on pourrait littéralement être sorti du système pendant une semaine au complet sans aucun problème avec ces installations-là, qui coûtent quand même quelques milliers de dollars, là, on va se le dire, mais éventuellement, dans la construction des nouveaux édifices, ça va être standard, j'ai l'impression.
Sur la messagerie, il y a Émilie qui dit on peut même acheter l'inverter et l'ajouter dans notre auto électrique. Donc, ce serait possible d'ajouter ce dispositif-là pour pouvoir faire l'inversion. Ceci dit, il y a quelque chose d'hyper encourageant, je trouve, à ça, parce que Hydro-Québec, ça veut dire que ça leur donne plein de ressources supplémentaires. Quand il arrive un problème, est-ce qu'on devrait pas pousser encore plus de la vente de voitures électriques si ça aide notre parc électrique?
En fait, ça va être en 2030 ou 2035, on n'aura pas le droit d'acheter d'autres choses. Éventuellement, ça va être ça.
Faut déjà attendre avant d'investir dans ça.
Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des questions par rapport à l'auto électrique. Il y en a une là. Qu'est-ce que tu fais le lendemain si tu as besoin de ton auto? Ton auto, là, mettons, là, tu as besoin de 70 km d'autonomie. Ça, c'est 90% des gens pour aller et revenir de leur travail. Fait que ça, 70 km d'autonomie, c'est assez peu par rapport à beaucoup de batteries qu'on a. Moi, j'ai 500 km d'autonomie. Ma batterie bien pleine. Donc, je pourrais quand même, pendant assez longtemps, sans risquer de pas me rendre à ma job, c'est pas un enjeu tellement. Il y a des avertissements. Ton auto, mettons, tu peux régler un minimum jusqu'à un minimum. Il va fournir l'électricité, mettons, puis à 40%, tu décides qu'il arrête si t'es éco-anxieux, mais t'as l'anxiété de la panne. Ça, c'est vraiment technique. C'est pas un enjeu. Moi, je trouve ça fantastique, cette énergie-là qui va être latente dans les véhicules puis qu'on pourra se servir momentanément en cas de panne, en cas de pépin. C'est très intelligent et on s'en va lentement mais sûrement vers ça.
Le podcast Debout les comiques.
Là, on va mettre la table pour ce débat. Ouais. Un débat qui déchire les passions, littéralement.
Ce sera pas simple, le débat, pour vrai débat. Alors, je vous explique, c'est dans l'actualité depuis hier. C'est un juge qui va avoir la très, très, très délicate tâche de déterminer si on envoie en détention, en prison fermée, une nouvelle maman qui a été impliquée dans un vaste réseau de trafic de drogue, même si elle s'est reprise en main puis que tout va bien pour elle en ce moment. La fille s'appelle Marjorie Briand, elle a 28 ans et à la base, elle a plaidé coupable à de graves accusations. trafic, possession de drogue en vue d'en faire le trafic et elle risque pour vrai de vrai une longue peine de détention. La couronne dit qu'elle devrait avoir une sentence d'au moins 4 ans. Okay. Ça, c'est ce qui est dit d'un côté. Mm-hmm. Mais la maman, elle a un jeune enfant. Et elle, ce qu'elle souhaite, c'est pouvoir purger sa peine à la maison. Elle a été arrêtée en août 2022 lors du démantèlement d'un gros réseau criminel. C'est de la contrebande, précisément, de crack et de cocaïne. À l'époque, elle est détenue, mais elle est enceinte de quelques semaines. Mm-hmm. Rapidement, elle va plaider coupable mm-hmm. et elle bénéficie d'un répit. Elle est libérée juste à temps pour son accouchement, mm-hmm. bien évidemment. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un retour en détention qui pourrait se faire parce qu'il y a eu un changement...
C'est ce que le juge doit déterminer, là.
Exactement. Il y a eu un changement législatif qui abroge les peines minimales qui ont été apportées à la loi. Ce qui fait en sorte que l'emprisonnement dans la collectivité, qui était auparavant interdit, devient accessible.
Okay.
Fait qu'elle a dit, bon, mais à partir du moment où j'ai eu un jeune enfant, que je me suis reprise en main, que j'ai compris que j'ai déjà été emprisonnée en plus, moi, j'aimerais ça avoir une peine de... Arrête de dire pour la défense, pour ses avocats, évidemment. C'est une détention de 2 ans, moins un jour, à domicile. Pour elle, c'est raisonnable, elle s'est réhabilitée, elle occupe un emploi sérieux et il y a de faibles, très faibles risques de récidive. Mais de l'autre côté... de l'autre partie. Ouais. Ce qu'on dit, c'est que, ben non, la peine de détention ferme s'impose et surtout, elle doit être longue, que c'est désolant pour l'enfant en tant que tel, mais que quel message on envoie si le crime organisé profite du fait qu'il y a une famille pour obtenir une peine plus clémente, elle doit répondre de ses actions, dans le fond. Elle a pris la décision de participer à ce réseau-là, ouais. Elle doit répondre de ses actions. Alors, on se pose ensemble la question.
Ben oui.
Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-ci?
Je vais dire une affaire. Je suis content, premièrement, de ne pas être juge de cette cause-là. Et j'ai l'impression que je pourrais aller d'un bord comme de l'autre, mm-hmm. honnêtement. De dire, attends un peu, là, ce qui a été commis comme geste, puis ce qu'on lui reproche, c'est pas non plus banal. Ben, on a beau comprendre dans la vie, puis on a beau. Il y a un principe de payer sa dette à la société.
Tout à fait.
Et moi, je suis pas un officier de justice, mais moi, comme personne de la société, je fais comme, attends un peu, là. Elle vendait pas des bonbons pelules, là. Je veux dire, Christy, c'était du crack qu'elle vendait. Oh,
ouais.
Elle a ruiné la vie de d'autres personnes. Elle a contribué à ça dans le commerce qu'elle a fait. Hein? Ça, c'est un point. Mais de l'autre bord, est-ce qu'on nuit à la vie de ce jeune enfant-là? Pour vrai, on dirait que je n'ai pas de réponse à ça.
Ouais.
On dirait que j'en ai pas de réponse,
parce
mais
que...
j'ai tendance à être attendri par le fait que c'est une maman.
Ouais,
mais si
je
c'est
je
un
comprends.
Papa dans la même situation, pour vrai, on le sacrera en dedans sans y penser.
C'est particulier parce que dans tous les articles que je peux lire sur Internet, là, on dit d'un bord, elle était très haute placée. Marjorie, dans la structure de planification de l'organisation. Mmh. Elle a joué un rôle clé pendant au moins 6 mois. C'est elle qui est en contact avec tous les revendeurs. C'est elle qui récupérait l'argent. Elle était une des gestionnaires de l'endroit où on cachait la drogue. Mmh. Fait qu'elle avait un geste.
Une primauté dans le...
Exactement. Mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est la maman d'un jeune enfant. Puis en plus, elle s'est reprise en main. Puis en plus, elle a un super bon emploi maintenant. Fait que dans le fond, quand on les envoie en prison, c'est pour payer leur peine, évidemment. Mais aussi, tu sais, s'il n'y a pas de chance qu'elle récidive...
Ouais.
Ben moi, c'est là-dessus un petit peu.
Oh là là.
Sur la messe, en tout cas, ça va des deux côtés, là. Mais j'ai de la misère à voir... Pour moi, envoyer quelqu'un en prison, ça a un effet... En fait, c'est pas pour montrer l'exemple. On n'est pas là pour montrer l'exemple en justice. On est là pour... pénaliser le geste et pour rendre la société
plus
sécuritaire.
Okay. Ouais.
Là, dans ce cas-ci, il me semble qu'elle coche les cases de beaucoup de choses qu'on demande à ce que la prison fasse. C'est-à-dire lui donner, la forcer à se recadrer.
Se réhabiliter.
Ouais. Se réhabiliter, tout ça. Et là, je me pose la question, qu'est-ce que socialement on gagne
mm-hmm.
à l'envoyer en prison? C'est ma question. Et si on me dit, ouais, mais c'est pour montrer l'exemple... J'ai de la misère avec ça, là.
C'est pour elle qu'elle comprenne. Raison. J'ai l'impression qu'elle coche cette case-là aussi.
Puis moi, il y a une autre affaire aussi, c'est qu'il y a un coût social et un coût humain à
clairement.
Tout ça. C'est-à-dire que quand on envoie quelqu'un en prison, on le paye, là. On le paye, là.
Ouais.
Son temps d'incarcération, on le paye. Et cet enfant-là, qui pourrait tomber avec les services sociaux, va prendre une place d'un enfant qui en aurait peut-être vraiment besoin.
Et
selon ce que je vois là, elle est une mère en ce moment qui s'est replacée et qui fait sa job de mère.
Mais on est là, écoute, mais là, t'as raison. Écoute, Étienne, tu m'ébranles en tabarouette.
Moi aussi, vraiment.
Le podcast Debout les comiques.
C'est 23.